Bonjour à toutes et à tous, René Lavergne, au micro de Radio Campus 106,6 FM, pour, comme chaque mercredi, une émission consacrée à l'Université de Lille. Aujourd'hui, nous allons accueillir un collectif, deux personnes de ce collectif qui s'appelle De Geter, à propos d'un ouvrage qui a été réalisé sur le thème Sociologie de Lille. Un ouvrage que nous allons présenter dans le détail aujourd'hui pour cette demi-heure d'émission. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Fabien Éloire et Monsieur Antonio Delfini du CLERCE, qui est une unité de recherche qu'ils vont nous présenter. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, allez, on va commencer à ma gauche avec Fabien Éloire. Donc, le CLERCE, qu'est-ce que c'est ?
Centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. C'est un laboratoire qui est basé donc sur le campus de l'université de Lille 1 et qui a une particularité, c'est qu'il rassemble des économistes et des sociologues autour de recherches, pour le coup, assez diverses et variées.
Alors, Sociologie de Lille, c'est le titre de cet ouvrage, de ce collectif De Geter. Alors, De Geter, qui est ce De Geter ?
Alors, c'est un collectif de 8 chercheurs lillois des universités de Lille 1, Lille 2 et Lille 3. Et on a effectivement choisi ce nom en forme d'hommage à Pierre De Geter, qui était un ouvrier de l'usine de Fives Kai Babcock, l'usine de métallurgie du quartier de Fives, qui pendant très longtemps a été une des plus importantes unités de production de métallurgie dans l'agglomération. Et Pierre De Geter était un ouvrier flamand arrivé dans le courant du 19e pour travailler dans cette usine. Et il a la particularité d'avoir écrit la musique de l'Internationale sur la demande de Gustave Delory, qui était alors maire de Lille au début du siècle. La demande a été faite de composer cette musique, et donc voilà, cette musique qui est restée dans les annales pendant tout le XXe siècle et encore aujourd'hui.
Alors effectivement, l'Internationale créée à un moment où Lille n'était pas autant internationale, du moins au niveau de la volonté, que maintenant.
Oui, c'est ça. Bah, Lille était d'une certaine manière quand même assez internationale de par son industrie textile notamment, qui était une des plus puissantes sur le continent européen et qui exportait partout à travers le monde. Et donc Lille avait déjà une portée internationale, peut-être même une portée plus dans les faits plus internationale que ce qu'elle est aujourd'hui. Mais on y reviendra peut-être dans le courant de la discussion.
D'accord. Donc cet ouvrage départ de la racine de l'industrialisation à Lille.
C'est ça l'idée. Bon, c'était pas de faire un ouvrage historique, mais de repartir à une époque qui nous paraissait la plus à même de nous faire comprendre l'agglomération d'aujourd'hui. Et donc, le moment qui nous a paru le plus intéressant, c'est effectivement le 19e siècle, qui est le siècle de l'industrialisation, de la révolution industrielle, qui a vu le développement dans les communes, la commune de Lille et puis ce qui n'était que des petits villages aux alentours, le développement de cette activité textile qui s'est effectuée avec là où il y avait du terrain, on a pu construire des usines et faire venir beaucoup d'ouvriers et ça a créé la première croissance, on va dire, de la population de l'agglomération. Il faut se rappeler que Lille, c'était une petite ville enserrée dans des remparts, les remparts Vauban, et c'est l'agglomération qui prend son essor à ce moment-là, avec un afflux de population rurale, des campagnes françaises, mais aussi belges, avec une première vague d'immigration, puisqu'on parle de 3 vagues d'immigration dans le livre, mais la première vague, c'est l'immigration des ouvriers français flamands, venus chercher du travail, parfois s'installer, et parfois faire ce qu'on appelle des migrations pendulaires d'un côté et de l'autre de la frontière.
Alors, quand on lit votre ouvrage, on va dire d'un peu plus de 100 pages, on termine avec l'idée que tout s'est construit de façon relativement rationnelle. Est-ce qu'il y a eu, pour cette construction de l'île au travers du temps, une pensée, une réflexion, une stratégie ? Et est-ce que cette stratégie, elle a été menée par des hommes successifs qui sont un peu donné le relais ?
Ce qu'on montre, c'est que donc la ville s'est effectivement constituée, la ville qu'on connaît aujourd'hui, la ville de Lille-Centre. Après, on pourra parler peut-être de Villeneuve-d'Ascq, d'autres communes de l'agglomération qui ont un poids aussi important. Mais en tout cas, pour Lille, elle s'est constituée au fur et à mesure des années, avec un énorme boom immobilier vers la fin du 19e, dans la seconde partie du 19e et au début du 20e. Et elle se construit quand même majoritairement pour accompagner le développement économique de l'industrie, et notamment l'industrie textile et l'industrie métallurgique. Donc les grandes avenues qu'on connaît à Lille aujourd'hui, qui peuvent avoir des aspects haussmanniens, sont des avenues qui relient à chaque fois des points névralgiques de la ville. Le port d'un côté, la gare pour le boulevard La Liberté, si je ne me trompe pas, qui rejoint le port de Lille à la gare de marchandises. Et donc c'est une ville qui est construite par les industriels. En lien avec la municipalité, mais à cette époque, avant que la municipalité soit une municipalité représentante des partis ouvriers, c'est des industriels qui sont à la tête de la ville. Et donc au 19e siècle, on a une haussmannisation qui n'est pas de l'envergure de l'haussmannisation parisienne ou de l'haussmannisation à Lyon, mais on a la construction d'une ville pour les... pour le développement des la circulation des marchandises et le développement de l'économie. Donc voilà, s'il y a peut-être il y a beaucoup d'autres choses derrière, mais s'il y a peut-être une chose centrale, c'est accompagner le développement économique de la ville.
Alors c'est vrai, quand on voit Lille actuellement, 25% de la population sont des étudiants, des résidents, et puis il y a beaucoup de tertiaires maintenant. À l'époque, c'était vraiment autre chose.
Voilà, c'est ça, c'était une agglomération complètement axée sur l'industrie. Alors de manière un peu plus variée sur la commune de Lille, où il y avait des industries un peu variées, mais pour ce qui est de Roubaix-Tourcoing par exemple, c'était très très axé sur l'industrie textile. On a raconté au tout début, c'est ça qui a créé le boom démographique, et puis c'est une industrie qui a très très bien fonctionné et qui a énormément grossi. On parlait d'internationalisation. Il y a eu la bourse internationale de la laine à Roubaix. Donc au 19e siècle, on peut dire qu'on était dans une agglomération avec une véritable internationalisation du point de vue de l'activité productive et commerciale.
Oui, c'est ça. Il y avait une administration à Lille quand même qui était plus marquée, et à Roubaix, on est quasi dans une forme de monoactivité juste pour l'industrie textile. Et donc c'est là qu'on comprend que quand une industrie comme ça se désengage d'un territoire comme Roubaix, on imagine les potentialités néfastes et très très difficiles de ce genre de déploiement capitaliste. Quoi. Alors,
c'est vrai qu'à Lille, il suffit d'aller à la vieille bourse et de regarder un petit peu les vedettes qui figurent à l'intérieur, hein, pour comprendre l'histoire avec qui se sont bâties peut-être aussi ces fortunes dont on parle dans vos livres.
Ouais, bien sûr, donc on insiste sur une des particularités qui est la forme de la bourgeoisie locale, qui est assez particulière, qui est très ancrée, donc avec un catholicisme social, une idéologie très développée, et avec une organisation à base familiale qui, aujourd'hui encore, est un des marqueurs de cette bourgeoisie locale du nord de la France. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup moins ouverte à d'autres capitaux et d'autres personnes que la bourgeoisie parisienne ou même la bourgeoisie lyonnaise. Et donc effectivement, les grands représentants aujourd'hui, on en voit les traces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, les plus importants représentants du capitalisme nordiste sont les descendants de ces familles du 19e siècle. Et donc voilà, il y a quelque chose de très... très marquant.
On pourrait citer aussi les grands scientifiques, hein, les grands chercheurs qui ont inventé des technologies.
Oui. Pasteur, par exemple, c'est ça. Par exemple, Pasteur qui...
Oui,
qui...
ceux qui ont travaillé sur les métiers à tisser ou tout ça, on retrouve aussi leur buste ou leur nom, justement, dans l'île, hein, puisqu'ils ont apporté beaucoup au patronat local dans la façon de procéder. Il y a un élément important, c'est au niveau de l'Université de Lille. Au départ, l'Université de Lille n'a pas être une université un peu normale comme il y a eu à Douai, etc. Parce qu'en fait, historiquement, Lille avait été un peu rebelle par rapport à un certain nombre de choses. Et donc, c'est le patronat qui a créé en fait les premières universités à Lille qui étaient privées, catholiques notamment.
Alors, c'est un des points effectivement qu'on aborde dans le livre, c'est le poids du privé dans l'éducation, dans notre agglomération. Pour ce qui est du... Alors, ça se trouve à tous les niveaux scolaires. Et pour parler de l'université, effectivement, il y a une spécificité lilloise qui est la présence de l'université Vauban, l'ACATO, qui effectivement est une université qui a été constituée, en tout cas une école, une institution supérieure qui a été constituée par le patronat, et notamment avec des capitaux textiles, pour former les enfants de cette classe sociale.
Voilà. Alors, sachant que l'appellation université est théoriquement réservée aux universités d'État.
Exactement.
Et tout le débat, parfois, peut s'engager à partir de ça.
Précise d'ailleurs dans le livre, on fait plus attention qu'à l'oral.
Alors, donc, on a bien compris le grand moment de développement de toute cette industrie, des retombées économiques, peut-être aussi d'une misère sociale qui existait déjà à cette époque-là. Hein. On peut parler des courets, etc., de la structuration.
Quand on parlait tout à l'heure d'une organisation rationnelle de l'espace, on a aussi le contrepoint qui est cette organisation des courets qui se fait en réalité de manière très, très anarchique avec l'afflux des populations qui viennent pour travailler et qui doivent trouver un logement, eh bien, on a un développement assez anarchique de ces rues assez typiques de Lille, hein, les courets où on a des maisons très exiguës, une promiscuité forte, peu de confort. Et tout ça s'organise dans les cours intérieurs en fait des maisons en façade. C'est pour ça qu'on voit pas, c'est des rues qu'on ne voit pas forcément. Et il faut que les pouvoirs publics y mettent de l'ordre, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps avant qu'ils puissent accéder à ces logements en réalité. Et du coup, pendant toute une période, le développement des courets se fait de manière très anarchique dans la ville.
Alors c'est vrai qu'après les courets, il y a eu les corons. Au nord, il y avait les corons. Et que là, finalement, je veux dire, d'un point de vue confort de vie, il y a eu quand même une petite évolution avec justement ces mineurs qui se sont installés là dans d'autres conditions quand même que les gens du textile.
Ouais, bien sûr. Et il faut faire quand même la distinction justement entre courets et corons. En fait, les corons ont été construits à l'initiative du patronat des mines qui voulaient loger la main-d'œuvre à proximité et essayer de la fixer à proximité de l'outil de travail, l'outil de production. Et donc, venaient attacher au contrat salarial, au fait d'être embauché, tout un tas d'avantages qui permettaient à la population de rester. Les courets lilloises sont différentes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas construites, ou en tout cas, dans un tout premier temps, elles sont construites par le patronat textile, mais très rapidement, elles sont construites par des petits rentiers, des petits retraités, des cabaretiers, toute une batterie de fonctions bien inférieures, en fait, qui viennent essayer de rentabiliser le sol au maximum, et donc ne sont pas construites par les grands patrons, et donc sont construites avec des matériaux qui sont de très mauvaise qualité, et donc il faut vraiment différencier voilà, il y a deux façons de faire différentes.
On pourrait parler de marchands de sommeil à l'époque déjà ?
Oui, c'est ça. Oui. C'est d'une certaine manière les marchands de sommeil parce qu'on construisait, on laissait la population dans un état qui était vraiment pas possible. Et donc, on a vraiment une distinction à faire et la confusion se fait souvent en fait. On parle des corons pour Lille et on parle des courets pour le bassin minier. Mais il faut savoir que historiquement, c'est vraiment très, très différent.
Absolument. Donc nous parlons toujours de cet ouvrage, Sociologie de Lille, du collectif De Geter, aux éditions, on peut peut-être préciser d'ailleurs.
La Découverte.
La Découverte. Et On pourrait maintenant aborder l'aspect inégalitaire, d'une certaine manière, dans le développement entre Lille et les grandes villes, j'allais dire périphériques, qui étaient au départ pas forcément périphériques. Je parle de Roubaix et de Tourcoing notamment. Après, on pourrait éventuellement parler des petites communes un peu plus riches.
L'inégalité, la thématique de l'inégalité, c'est un petit peu le fil conducteur de l'ouvrage. Donc c'est vraiment ce qui a en quelque sorte motivé les différents chapitres de ce livre. Ce qu'on essaye de montrer, c'est surtout à travers des constats statistiques. Hein, le livre est très court, donc on reprend en fait tout un tas d'enquêtes, de chiffres qui ont été produits d'ailleurs ça peut être la métropole européenne de Lille, ça peut être l'INSEE, et donc on essaye de regarder comment comment se fait la répartition de la population en fonction des catégories socio-professionnelles. Et effectivement, donc on produit quelques cartes, quelques tableaux, et on montre qu'il y a une répartition très inégalitaire des classes sociales, avec des zones urbaines qui sont très favorisées, où la population est très favorisée, et d'autres zones urbaines où la population est très défavorisée. On regarde un petit peu, on va se rendre compte qu'effectivement, il y a une très forte inégalité entre la population lilloise et puis la population de Roubaix-Tourcoing dans la composition, hein, en termes de catégories socio-professionnelles. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est quand on regarde juste la commune de Lille, on va se rendre compte qu'il y a aussi des inégalités très fortes à l'intérieur de Lille, entre les différents quartiers. Voilà.
Alors déjà, en lisant votre ouvrage, on comprend aussi d'une certaine manière que Lille a aspiré beaucoup aux autres grandes villes, Roubaix et Tourcoing.
Oui, alors il y a une spécificité en fait, c'est que l'agglomération lilloise, sa ville-centre, la ville de Lille, elle concentre 20% de la population de l'agglomération, qui est une chose qui n'existe pas dans les autres communes des grandes agglomérations, c'est-à-dire que Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, généralement la ville-centre concentre jusqu'à 40, 50, 60, voire plus. Donc ici on est dans une ville-centre qui est complètement défavorisée en termes de population par rapport à l'environnement. Donc effectivement, ça crée une agglomération qui est multipolaire, avec un pôle à Lille, effectivement, mais aussi un pôle à Roubaix, un pôle à Tourcoing, un pôle à Villeneuve-d'Ascq, qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ça nous fait une agglomération qui est quand même assez sensiblement différente des autres agglomérations françaises.
Je parle d'aspiration économique. On a l'impression que le capital, maintenant, il s'est resserré sur la ville de Lille intramuros.
Alors oui, ça c'est une des volontés aussi, hein, en nommant Lille métropole européenne de Lille, communauté urbaine de Lille, on essaye de mettre l'accent sur la ville de Lille en elle-même. Et puis il y a, là on passe à une étape historique supérieure, mais il y a la volonté de construire Euralille par exemple dans les années 90, et donc d'attirer là effectivement tous les capitaux du tertiaire notamment, pour les concentrer dans un lieu unique au sein de l'agglomération, qui devrait être un pôle de compétitivité pour lancer ensuite l'agglomération dans les nouvelles la nouvelle économie. Et donc effectivement les capitaux ont été attirés sur ce site-là. Après, à la fin des années 90, il y a une politique de pôle de compétitivité plus diversifiée qui s'est mise en place, avec la création de la zone de l'Union, la création d'Eura Technologie, d'Eura Santé, qui sont d'autres pôles économiques qui sont censés aussi attirer les capitaux pour ne pas tous les voir concentrés sur l'île. Mais on se rend compte que, par exemple, pour la zone de l'Union, c'est en ce moment très très difficile d'essayer d'attirer, et ça fonctionne assez peu en fait, en réalité.
Vous parlez également dans ce livre de certaines zones de gentrification, alors une petite partie peut-être de Oisem, mais aussi de villages qui se sont bâtis autour de puissantes fortunes.
Oui, bon, ça existait dès le 19e siècle, hein, quand la grande bourgeoisie façonne la ville, elle crée ses propres espaces. On parlait tout à l'heure des boulevards, parlons du Grand Boulevard, par exemple, qui relie Lille à Roubaix et à Tourcoing, donc qui relie en fait les trois foyers de production. Il y a un certain nombre d'espaces qui, au fil de ce Grand Boulevard, sont réservés à la bourgeoisie. Qu'on pense à Bondues, au domaine de la vigne, etc. Et cette forme d'organisation de l'espace qui contribue à la, ce qu'on, au, à la, au processus de ségrégation qu'on a montré, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, continue, puisque bah, dans les années 70, quand est créé Villeneuve-d'Ascq, est créé aussi ce quartier Brigode avec le golfe autour. Donc on est toujours dans le même type de processus. Voilà. La gentrification, c'est un petit peu différent. C'est l'idée qu'on va remplacer des populations pauvres par des populations plus aisées. Donc, c'est un processus qu'on peut... ce processus-là, par lequel on peut qualifier le Vieux-Lille, par exemple, hein, qui était, dans les années 70, un quartier très, très dégradé, où on s'est même posé la question de le raser un peu comme le quartier avait été rasé, le quartier Saint-Sauveur. Voilà. Et effectivement, il y a des processus de gentrification à Oisem, par exemple, sur certaines parties du quartier, mais pas partout.
Alors, sociologie de Lille décrit bien les démarrages des grands moments industriels de Lille et puis aussi actuellement, hein, il y a une description de l'état des lieux d'une certaine manière. Est-ce que de ce point de départ de ce livre à l'arrivée, vous en déduisez peut-être des idées ou des pistes pour le futur de Lille et de son agglomération ?
Ben, nous, on se contente quand même de donner un constat en tant que sociologue, et donc là, c'est une approche, on l'a pas rappelé, mais donc de sociologue sur cette histoire-là. Et donc, nous, en fait, pour essayer de résumer, on fait le constat d'un changement d'image. Depuis 20 ou 30 ans, Lille a changé d'image. Et donc ça, c'est non négligeable, d'un Lille ouvrier, bastion du Parti Socialiste, du mouvement ouvrier, on est passé aujourd'hui à une ville tertiaire culturelle. Donc, pour Ralil, pour Lille 2004, pour toutes ces choses. Et donc, le bouquin essaye d'analyser avec les outils de la sociologie, d'analyser ce changement et de le comparer. Et donc, ce qui nous apparaît à nous, c'est que, contrairement peut-être au discours politique et médiatique qu'on entend sur Lille, les anciennes structures urbaines et sociales de l'agglomération n'ont pas complètement disparu. Elles ont été effectivement réagencées. Dans certains endroits de la métropole, on pose la question et on tente d'y répondre, elles ont été amplifiées, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des endroits où la pauvreté s'est concentrée et assez difficile, et donc des territoires qui sont dans des situations assez difficiles. Et donc voilà, nous, le constat qui est posé, c'est celui-là. Il y a eu un réagencement plus qu'une transformation et une table rase.
Voilà, avec ce cas particulier qui est le quartier européen de Lille, qui est un espace nouveau d'une certaine manière.
Le quartier de Ralil, oui, effectivement, qui est construit sur le terrain des anciennes remparts et des anciennes fortifications, et qui là, voilà, tente d'inscrire la ville de Lille dans les nouvelles dynamiques du capitalisme sur la fin du XXe siècle, et qui tente d'attirer des entreprises, d'attirer de nouveaux cadres, d'attirer de nouvelles populations à Lille, et qui aujourd'hui s'étend de plus en plus justement sur les contours.
Voilà, on l'a compris, donc la vie de Lille n'est pas terminée, loin de là. Sa métropole, peut-être en difficulté, peut rebondir, à vérifier, en tout cas avec d'autres projets. La sociologie de Lille répond déjà à cette base de réflexion et d'analyse. Merci donc pour votre contribution, Fabien Éloire et Antonio Delfini.
Merci beaucoup.